Bon, bah, camarades, on va démarrer. Alors d'abord, je voudrais rappeler que, si possible, il faut faire en sorte que vos téléphones ne sonnent pas, ne vibrent pas, de pas répondre au téléphone. Comme d'habitude, donc cet exposé, il sera en deux parties, avec une petite pause de 20 minutes. Et à la fin, on organisera un débat où on pourra donner la parole dans la salle. Voilà. Alors, pour introduire le sujet d'aujourd'hui, ben accéder à un système de soins digne de ce nom, c'est un besoin humain fondamental. Et aujourd'hui, avec les connaissances et la science dont l'humanité dispose, avec les progrès techniques et industriels extraordinaires réalisés depuis les débuts du capitalisme, eh bien, la société aurait largement les moyens de satisfaire ce besoin. Pourtant, pour la plupart des habitants de la planète, l'accès aux soins reste un luxe inaccessible, faute de structures adaptées ou faute d'argent pour payer des médicaments. La rougeole, par exemple, maladie pour laquelle il existe pourtant un vaccin, a encore tué 136 000 personnes dans le monde l'année dernière, en majorité des enfants. Le choléra, que l'UNICEF qualifie de maladie de la pauvreté et de l'insalubrité, continue de faire des ravages. Récemment, il est réapparu aux Comores et du même coup à Mayotte, département français. Pourtant, la lutte contre le choléra ne nécessite pas de moyens sophistiqués, simplement un système d'eau potable et d'évacuation des eaux usées. Le système capitaliste pourrissant est incapable d'apporter ces conditions élémentaires aux habitants de la planète. Et même au cœur des pays riches, où la classe ouvrière avait pu bénéficier d'une période d'amélioration, l'accès aux soins et à la santé recule. Ici, en France, se soigner coûte de plus en plus cher. La ministre de la Santé vient d'annoncer une baisse des remboursements par la Sécurité sociale, des consultations médicales et des médicaments, donc de nouveaux frais à payer par les complémentaires santé qui vont probablement augmenter leurs cotisations. Quant aux 3 millions de personnes sans mutuelle, ce sera à elles de tout payer. Et cela s'ajoute aux franchises médicales sur les consultations, les médicaments et les transports qui ont déjà été augmentés en mars dernier. Des choses qui pouvaient paraître simples dans les années 1970 ou 1980, comme appeler son médecin pour qu'il passe vous examiner, se transforment aujourd'hui en parcours du combattant. Dans les zones rurales, dans les villes moyennes ou dans les banlieues populaires des grandes villes, 9 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant. Et 30% de la population vit dans ce qu'on appelle un désert médical. Certains se retrouvent un soir angoissés avec 40 degrés de fièvre, sans parvenir à trouver un médecin, parfois contraints de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre les urgences les plus proches. Certains ont une prescription d'imagerie médicale pour une suspicion de métastase cancéreuse au cerveau et ne trouvent un rendez-vous que 3 mois plus tard. Certains renoncent à consulter un psychiatre, un gynécologue ou un ophtalmologue, faute de voiture ou de moyens pour payer l'essence ou de proches pour les héberger dans une grande ville où les spécialistes sont présents. D'autres encore attendent des heures sur un brancard aux urgences et peuvent même y mourir seuls et angoissés. Alors pour beaucoup, dans les classes populaires, l'accès à la santé est devenu un casse-tête. Et du coup, la confiance dans le progrès laisse place aux désillusions, à la méfiance et au sentiment d'abandon et de marginalisation. Le rejet des vaccins, des médicaments, le recours à des charlatans, l'adhésion à des théories complotistes sont aussi des conséquences de cette situation de plus en plus catastrophique. Et on parle là du système de soins de la France, un pays parmi les plus développés, qui ont accumulé leurs richesses en condamnant le reste du monde au sous-développement. Eh bien, cette situation est liée à une offensive de longue haleine des capitalistes pour mettre la main sur l'énorme gâteau du système de santé. Les dépenses de santé en France représentent en effet actuellement plus de 300 milliards d'euros par an, dont une part toujours plus grande vient grossir leurs profits. C'est à partir de la crise mondiale qui a commencé dans les années 1970, sous la pression des capitaux à la recherche de nouveaux secteurs où se placer, que les gouvernements ont commencé à transformer le système de soins, faisant de la santé un secteur très lucratif, largement ouvert aux capitaux privés. Alors, on ne va pas évoquer aujourd'hui l'industrie pharmaceutique et ses milliards de profits, mais discuter de la manière dont les gouvernements, depuis 50 ans, ont broyé méthodiquement les travailleurs de la santé comme les patients. La dette de la Sécu, l'hôpital public, les cliniques privées, les EHPAD, les laboratoires d'analyse, tout a été industrialisé, rentabilisé à outrance, souvent directement livré aux financiers. La santé tout entière est devenue un objet de spéculation. Et pour développer cette mise du secteur de la santé sous la coupe de la finance, je passe la parole à Zoé Chavet.
Historiquement, les hôpitaux étaient issus de la charité religieuse au Moyen-Âge, comme l'indiquent encore certains noms comme Hôtel-Dieu. Ils se finançaient par des dons ou par des rentes tirées de leurs propriétés foncières ou par les communes qui en étaient souvent les gestionnaires. Au XIXe siècle encore, des religieuses présentes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans salaire, accueillaient les pauvres, les vieux, les malades dans ces mouroirs. Les médecins y venaient se faire la main le matin bénévolement avant de soigner leur clientèle riche et payante l'après-midi. Dans l'entre-deux-guerres, les hôpitaux devinrent des lieux où on soignait, avec les premières assurances sociales, puis les premiers malades qui payaient leurs soins. Mais le système de santé en France ne s'est réellement développé que dans les 30 années qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, qui furent une époque de progrès scientifique et de développement économique, en tout cas dans un pays impérialiste et après les destructions massives de la guerre. Après la guerre, le gouvernement d'Union nationale, dirigé par le général de Gaulle, avec participation des partis socialistes et communistes, créa la sécurité sociale, qui unifia et généralisa le système des assurances sociales précédentes. La couverture maladie permit à plus de travailleurs d'accéder à des soins médicaux, mais dès le début, elle ne remboursait pas l'intégralité des soins. Le reste à la charge du patient s'appelant le ticket modérateur. Depuis des décennies, on nous rabâche l'idée qu'il s'agirait d'une époque bénie de conquêtes sociales. Encore avant-hier, l'émission « Affaires sensibles » sur France Inter était consacrée à la légende d'Ambroise Croizat, présenté comme le père de la sécurité sociale, et au mythe de la sociale répandu par le film de Gilles Perret. Mais l'Europe était alors ravagée par les séquelles de la guerre, les destructions, les déplacements de population. La bourgeoisie et ses serviteurs politiques craignaient une explosion révolutionnaire, comme celle qui éclata en 1917, où la classe ouvrière pourrait renverser leur pouvoir. En France, le soutien des ministres communistes comme Croizat, avec leur influence dans la classe ouvrière, permit à De Gaulle de remettre en selle l'appareil d'État bourgeois, de réprimer les révoltes anticoloniales naissantes, tout en reconstruisant la machine économique au profit des capitalistes. Le financement de la Sécu reposait sur les cotisations, réparties formellement entre une part ouvrière et une part patronale. Mais fondamentalement, tout cet argent était le fruit du travail de la classe ouvrière. C'est elle qui produit collectivement toutes les richesses de la société, y compris les médicaments, les bâtiments des hôpitaux ou les blouses des médecins. Qu'elle accède à une partie de ce qu'elle a elle-même fabriqué, c'est la moindre des choses et cela n'a rien d'extraordinaire. Pour le patronat, ce n'était pas cher payé pour remettre au travail une classe ouvrière physiquement affaiblie, dont les salaires réels chutaient à cause de l'inflation et dont les semaines de travail dépassaient les 45, voire 50 heures. Les laudateurs de la Sécu continuent à nous la présenter comme un progrès social, sous prétexte que ce serait un système basé sur la solidarité, où chacun cotise selon son salaire et reçoit selon ses besoins. Ils sont incapables d'imaginer autre chose qu'un système reposant sur l'exploitation salariale. car le salaire, même si on compte sa partie versée à la Sécu au lieu d'être touchée directement, le salaire différé, n'est que le prix que le patron paye pour la force de travail. Grâce à ce salaire, l'ouvrier est en capacité de revenir se faire exploiter le lendemain. Et c'est toujours le patron qui garde le contrôle du capital, amasse les profits et prend les décisions. La caisse de la sécurité sociale n'a jamais été dirigée par les travailleurs eux-mêmes. Si les dirigeants syndicaux ont été associés à sa gestion, dès le début, l'État a gardé la main sur les décisions concernant le montant des cotisations, les prix et les taux de remboursement. En 1967, il a imposé la division de la caisse unique de sécu en trois caisses séparées, vieillesse, maladie et allocation familiale, pour empêcher la solidarité entre les risques. Et il a octroyé au patronat, qui ne disposait au départ que d'un quart des places dans les conseils d'administration, d'en occuper la moitié. L'État a aussi largement utilisé l'argent de la Sécu pour financer les investissements indispensables dans le système de santé. Entre 1950 et le début des années 70, les pays impérialistes ont connu une période de développement économique connue sous le nom abusif de « 30 glorieuses ». En partant d'un appareil productif largement détruit par la guerre mondiale et en poursuivant l'exploitation du monde entier, les richesses s'y sont accumulées et ont permis la modernisation et le développement des outils industriels, puis aussi du système de soins. Comme les capitalistes privés rechignaient à mobiliser les capitaux nécessaires pour relancer la production d'électricité ou de charbon ou pour construire des autoroutes, c'est l'État qui s'en est chargé. Grâce à cette béquille étatique et au marché de la reconstruction, l'industrie privée a connu des gains de productivité dans la chimie, la métallurgie, la construction automobile ou les chantiers navals. Dans cette période, l'essentiel des profits se réinvestissait dans la production. La santé, en revanche, n'attirait pas encore les capitalistes parce qu'ils n'en espéraient pas assez de profits. Mais certains hauts fonctionnaires voyaient plus loin que l'égoïsme borné du patron individuel, comme cet énarque qui défendait ainsi en 1947 la nécessité d'une politique sociale. Je le cite. « De tels progrès entraîneront en outre une augmentation de la main-d'œuvre et un accroissement non négligeable du rendement moyen de la population ouvrière française. » Comme vous voyez, ce n'est pas vraiment le bien-être des travailleurs qui les motivait. Le système de santé français était en retard sur ses voisins européens. Il n'y avait par exemple que 3,6 lits d'hôpital pour 1000 habitants, contre 9 ou 10 en Grande-Bretagne. Alors, une fois les secteurs vitaux pour les capitalistes relancés, l'État a impulsé dans les années 60 la modernisation du système hospitalier français. En 1958, le médecin Robert Debré, aidé par son fils Michel Debré, ministre de Gaulle, parraina une réforme qui créait les centres hospitaliers universitaires, les CHU, fusionnant en leur sein l'enseignement et la recherche. Les médecins durent travailler à temps plein à l'hôpital, tout en gardant la possibilité d'y accueillir une clientèle privée. Un vaste plan de construction et de modernisation fut lancé, financé à 40% par l'État, c'est-à-dire en grande partie par les impôts des travailleurs, à 30% par la Sécu, donc avec les cotisations des travailleurs, et les 30% restants par des ressources propres à l'hôpital. En 15 ans, entre 1960 et 1975, la moitié des bâtiments existants furent rénovés. Les vieilles salles communes, où s'alignaient des dizaines de malades, furent remplacées par des chambres au confort moderne. De nouvelles constructions renforcèrent le maillage de tout le territoire et augmentèrent le nombre de lits d'hôpital, avec la généralisation d'outils de diagnostic comme la radiologie et de nouveaux secteurs comme la traumatologie du fait de l'arrivée des accidents de la route. Côté personnel, les religieuses furent progressivement remplacées par des infirmières diplômées qui étaient formées et qui recevaient un salaire. Le nombre de médecins par lit d'hôpital tripla entre 1965 et 1980, tandis que le reste du personnel doublait. La période connut aussi une formidable révolution thérapeutique. La vaccination contre la poliomyélite, puis la coqueluche et la rougeole, fut généralisée. On produisit industriellement les premiers antibiotiques, comme la pénicilline ou la streptomycine, qui réduisirent énormément la mortalité due aux maladies infectieuses. En 30 ans, tous les secteurs connurent des progrès fulgurants. Pilules contraceptives, psychotropes, cortisone, médicaments contre l'hypertension artérielle, nouvelles techniques de chirurgie, découverte de la double hélice de l'ADN, essor de la génétique, mise au point de l'échographie puis du scanner, transfusion sanguine, rein artificiel, etc. Bien sûr, ces progrès eurent lieu dans le cadre d'une société d'exploitation, avec son cortège d'inégalités. Les ouvriers restaient plus exposés aux risques de décès au travail, aux produits dangereux, aux logements insalubres ou aux horaires décalés. L'accès aux soins lui-même n'a jamais été égal, avec des recours moindres dans les classes populaires aux dentistes, aux spécialistes ou des consultations plus tardives, car les soins n'ont jamais été totalement gratuits. En 1980, l'écart d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier restait de 6 ans pour les hommes, et il est d'ailleurs encore du même ordre aujourd'hui. Mais cette période a quand même été vécue par la majorité de la population comme une période d'amélioration, où elle pouvait enfin bénéficier des progrès de la médecine. L'espérance de vie à la naissance, qui était de 43 ans en moyenne en 1872, de 66 ans en 1950, a dépassé les 74 ans en 1980. La santé, de secteur marginal qui reposait sur la charité au début du XXe siècle, s'était transformée, grâce aux investissements publics, mais aussi du fait du vieillissement de la population, en un vaste secteur de l'économie. Entre 1950 et 1980, en France, la consommation de biens et services médicaux, comme disent les économistes, était passée de 2,5% du PIB à 6,25%, dont plus de la moitié pour l'hôpital public. Pour les capitalistes, c'était devenu un immense gisement de profits potentiels encore peu exploité. La période a changé à partir du milieu des années 1970. La crise du dollar, puis le choc pétrolier, ont signé l'entrée en crise de l'économie capitaliste. La croissance de la production a commencé à se heurter aux limites du marché solvable. Les capitalistes ne trouvaient plus la rentabilité attendue en élargissant le marché, ils investissaient moins et cherchaient de nouvelles sources d'enrichissement. Sur fond d'une économie en stagnation, la bourgeoisie a intensifié la guerre sociale contre la classe ouvrière pour s'accaparer une part plus grande des richesses produites. Cela s'est traduit d'une part par une offensive directe contre le niveau de vie des travailleurs et d'autre part, les capitaux disponibles ont pénétré de nouveaux secteurs qui leur échappaient en partie, avec l'objectif de récupérer une partie de ce qui avait été versé aux travailleurs en salaire différé. Dans le domaine de la santé, cela s'est traduit par deux mouvements en partie contradictoires qui se poursuivent aujourd'hui. Une politique de baisse des dépenses de santé de la part de l'État et en même temps une pénétration croissante du capital privé. Il faut dire qu'il y avait de quoi attirer la convoitise des capitalistes. Vers 1980, le budget total de la sécurité sociale était comparable à celui de l'État. Les remboursements garantis par la Sécu avaient déjà largement enrichi les industriels de la pharmacie, comme Rhône-Poulenc, Roussel-Uclaf ou Servier. Mais une grande partie des richesses dépensées dans la santé échappait encore, pour l'essentiel, à la loi du profit. Les hôpitaux n'étaient pas organisés pour être rentables, mais pour soigner. Des centaines de milliers de travailleurs les faisaient tourner, souvent attachés à l'idée qu'ils étaient là pour soigner tout le monde. Il a fallu des décennies d'offensives pour changer ces habitudes et briser leur façon de travailler. C'est l'État qui a pris l'initiative de transformer ce secteur en machine à profit. À partir des années 70, Les gouvernements ont drainé l'argent de la santé vers les coffres des capitalistes, en démantelant le système de soins qui existait, en broyant les travailleurs et les patients. Soulignons au passage que cette évolution de fond vers des privatisations et la financiarisation de la santé a été la même dans tous les pays riches, quelles qu'aient été au départ les différences d'organisation de leur système de santé. La préoccupation de freiner la hausse des dépenses de santé est apparue un peu avant le début de la crise économique. En 1971, un quota d'étudiants en médecine, appelé numerus clausus, a été mis en place dans l'objectif de limiter l'offre de soins. Dans les discours officiels, la santé a commencé à devenir un coût. C'est Raymond Barre, premier ministre de droite de Giscard entre 1976 et 1981, qui a commencé à parler ouvertement de maîtrise des dépenses de santé. Avec tous les sous-entendus méprisants sur les gens qui abusent des soins, ils ont commencé à habituer les esprits à l'idée qu'il faudrait économiser pour pouvoir baisser les cotisations patronales versées à la Sécu. Le numerus clausus des médecins a été régulièrement baissé, de 8000 places par an en 1977 à 3500 en 1993. Des quotas à l'entrée en école d'infirmière existèrent de 1983 à 2000. Une partie de ceux qui souhaitaient devenir soignants furent ainsi empêchés de le faire. Et cette politique, poursuivie jusqu'à récemment, est une des sources des pénuries actuelles de médecins et de personnel paramédical. Les premières attaques contre l'hôpital public furent lancées en 1983, avec François Mitterrand président, Pierre Mauroy du Parti socialiste Premier ministre et Jacques Ralite du Parti communiste ministre de la Santé. Ils mirent fin à la gratuité des soins à l'hôpital en instaurant le forfait hospitalier, qui était de 20 francs, une somme à payer pour chaque journée à passer à l'hôpital, et qui n'a cessé d'augmenter depuis. Les mêmes introduisirent un premier changement profond dans le financement des hôpitaux, en instaurant le budget global. L'hôpital ne serait plus financé en fonction de ses besoins, mais en fonction d'un budget annuel fixé à l'avance à ne pas dépasser. Dans les années 90, la course aux économies poussa à privatiser la maintenance des bâtiments et des installations. Les dirigeants prétendaient que l'hôpital devait se recentrer sur son cœur de métier, qui est le soin, et dégager vers le profit privé tout ce qui était autour. Puis les cuisines et les blanchisseries furent restructurées et regroupées, avec des suppressions d'emplois et des rythmes de travail augmentés. La stérilisation réalisée dans chaque service fut abandonnée au profit d'installations centrales. En 1996, les agences régionales d'hospitalisation, créées par la droite sous Chirac et dirigées par l'État, prirent prétexte de la moindre qualité des soins pour fermer une multitude de petits services ou de maternités locales. Mais jamais ils n'ont cherché à tirer vers le haut le niveau des hôpitaux locaux, par exemple en les associant à un grand CHU. Résultat, des femmes enceintes sont contraintes de faire des dizaines de kilomètres pour rejoindre une maternité, certaines accouchant même dans l'ambulance, voire dans leur voiture. Après 1997, les 35 heures à l'hôpital, instaurées par le gouvernement PS-VRPC de Jospin, sans embaucher en proportion de la baisse du temps de travail, furent une occasion d'augmenter la productivité. Les travailleurs ne pouvaient prendre les congés auxquels ils avaient droit, ou ils étaient censés avoir droit, et ils accumulaient des heures dans des compteurs. C'est pourquoi en 2003, l'administration hospitalière reçut le droit d'assouplir les 35 heures, qui étaient de fait une fiction, et d'allonger le temps de travail des personnels. En pressurant les travailleurs, en supprimant des lits d'hôpital et en dégradant l'offre de soins, les gouvernements successifs réussirent à comprimer les dépenses de l'hôpital public. Les cliniques privées à but lucratif commencèrent à mettre la main sur les soins qui rapportaient le plus, comme des actes de chirurgie programmés ou des appendicites. Toutes ces années ont constitué une rupture majeure avec la période d'investissement précédente. Les gouvernements ont initié la transformation du système de soins en un hôpital gérée comme une entreprise industrielle. Selon ces gens-là, les hôpitaux dépensaient trop, car ils n'étaient pas soumis à cette saine loi de la concurrence capitaliste qui est censée être le gage d'une meilleure efficacité. Mais avant les années 2000, la pénétration directe du capital dans le système de soins restait limitée. En revanche, dans la même période, les financiers avaient déjà commencé à s'enrichir avec l'argent des caisses de la sécurité sociale. Dès la fin des années 70, les politiciens ont inventé le fameux trou de la Sécu, voué à une grande carrière dans la propagande contre les travailleurs. Il s'agit d'un déficit artificiellement créé. Le patronat, avec les premiers plans de licenciement massif, a privé la Sécu de rentrée de cotisations. Mais les gouvernements se sont refusés à augmenter les taxes et à taxer les profits pour compenser. La prétendue catastrophe du trou de la Sécu, la prétendue dette qui explose, ont ensuite servi de prétexte, et on est en plein dedans en ce moment, pour restreindre les droits des travailleurs. Par contre, cela n'a jamais empêché les baisses de cotisations patronales sous prétexte de lutter contre le chômage. En 1991, Michel Rocard, Premier ministre de Mitterrand, a instauré un nouvel impôt, la CSG, Contribution sociale généralisée, payée principalement par les salariés, les invalides, les retraités et les chômeurs, pour renflouer les caisses de la Sécu sans faire payer le patronat. Puis le plan Juppé de 1995 fut une attaque majeure contre les retraites et contre l'assurance maladie. Si la grande grève de novembre-décembre 1995 l'a forcé à remballer le volet retraite de son plan, Juppé a réussi à imposer d'autres mesures. Désormais, pour limiter les dépenses, le gouvernement allait fixer à l'avance le budget de chaque branche de la Sécu et le faire voter par le Parlement, en particulier un objectif national des dépenses d'assurance maladie, ONDAM. Et c'est cette loi qui est discutée en ce moment au Parlement. Le plan Juppé imposa aussi des hausses des cotisations salariales, du forfait hospitalier et de la CSG. D'ailleurs, aujourd'hui, la CSG est un impôt qui rapporte plus que l'impôt sur le revenu, alors que c'est bien plus injuste, car son taux n'est pas du tout progressif. Quant au trou de la Sécu, en réalité, comme toute dette publique, c'est une excellente affaire pour les capitalistes. Déjà en 1850, Marx expliquait, je le cite, « L'endettement de l'État était d'un intérêt direct pour la fraction de la bourgeoisie qui gouvernait et légiférait au moyen des chambres. À la fin de chaque année, nouveau déficit. Au bout de 4 ou 5 ans, nouvel emprunt. Or, chaque nouvel emprunt fournissait une nouvelle occasion de rançonner l'État, qui, maintenu artificiellement au bord de la banqueroute, était obligé de traiter avec les banquiers dans les conditions les plus défavorables. » Vous voyez, ça n'a rien de nouveau. Cette bonne vieille recette bourgeoise fonctionne aussi avec la dette de la Sécu. Depuis le plan Juppé, cette dette est gérée par une caisse spéciale, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, CADES. Elle emprunte de l'argent directement sur les marchés financiers. Censée être provisoire, elle a été prolongée par chaque gouvernement. Après la crise du Covid, la CADES a encore récupéré une dette de 136 milliards d'euros supplémentaires et sa durée de vie a été prolongée jusqu'en 2033. Qui dit dette dit évidemment intérêt à payer aux financiers. Pour alimenter cette pompe à finances, la CADES ponctionne une partie de la CSG et touche l'argent d'un nouvel impôt créé en 1996, la CRDS, Contribution au remboursement de la dette sociale, qui représente 0,5% sur tous les revenus d'activité. Ainsi se réalise le miracle de la dette publique. Cet argent prélevé par l'impôt, au lieu d'aller faire fonctionner le système de santé, est directement siphonné par la finance. Avec un paiement des intérêts ainsi garanti par l'impôt, les obligations émises par la CADES sont un placement fiable pour les banques et les fonds d'investissement et qui rapportent. Entre 1996 et 2018, la CADES a versé 61 milliards d'euros en intérêts et en commissions pour les financiers. Alors quand le gouvernement nous rebat les oreilles aujourd'hui encore avec le soi-disant « trou abyssal » pour justifier les baisses de remboursement ou les attaques contre les arrêts maladie, oui, il y a un véritable trou noir qui engloutit les impôts des travailleurs, mais ce trou noir, ce sont ces milliards d'intérêts versés aux banquiers. Ainsi, en leur offrant le pactole de la dette de la Sécu, les gouvernements ont permis aux capitalistes des banques de puiser directement dans l'argent des cotisations que les travailleurs versent pour leur santé. On pourrait aussi parler des complémentaires santé qui sont de plus en plus livrés à l'appétit des assureurs privés. Mais les gouvernements se sont aussi acharnés à faire rentrer les méthodes capitalistes au cœur même des soins aux malades. Si l'impulsion date des années 80-90, cela a pris du temps, car les hôpitaux n'avaient pas été conçus dans ce but. Et cela heurtait les habitudes de travail de centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs, médecins, infirmières, aides-soignantes, manipulateurs radio, agents d'entretien, laborantins ou secrétaires. Il a fallu briser ces habitudes. Pour y parvenir, l'État et ses hauts fonctionnaires ont transformé radicalement l'organisation de l'hôpital. D'une part, les hôpitaux publics ont été poussés à s'endetter massivement, faisant rentrer les exigences et les méthodes des financiers au cœur de l'hôpital. Et par ailleurs, comme nous allons le voir, à l'aide de la T2A, tarification à l'acte, les soins ont été industrialisés, taylorisés, au point que de nombreux soignants ressentent aujourd'hui que leur travail, c'est comme à l'usine. Pour Jean de Kervasdoué, haut fonctionnaire dans la santé dans les années 80 sous la gauche, je le cite, « L'hôpital est une entreprise comme une autre. Le mot marketing choque, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. L'hôpital cherche à vendre. » Il fut l'un des initiateurs de la transformation de l'hôpital en usine à produire du soin. Dans la décennie suivante, la première étape de ce processus a été de donner une valeur marchande aux actes de soins. Des chercheurs ont décortiqué chaque acte, calculé pour chaque patient combien on dépense en soins, en médicaments, en frais de blanchisserie, de ménage. Ils ont regroupé les patients en groupes homogènes de malades, défini des séjours standards pour chaque type de pathologie et calculé le coût de revient moyen. C'est ainsi qu'a finalement été fixé un tarif, c'est-à-dire le prix que la Sécu va verser à l'hôpital pour chaque acte. Depuis 2004, une part importante du budget alloué aux hôpitaux dépend de la T2A. Comment ça se passe ? À l'hôpital, à partir du dossier de chaque patient, des techniciens affectent un code à chaque acte opéré. En fonction du diagnostic, du sexe, de l'âge, un algorithme classe alors le patient dans un des groupes homogènes de malades qui détermine le tarif qui va être payé par la Sécu à l'hôpital. Le choix judicieux du codage est devenu tout un art. Par exemple, un patient est admis pour une fracture due à une chute, mais on découvre que la chute était due à un accident cardiaque. Selon le choix du codage, pour le même séjour du même patient, l'hôpital ne touchera pas la même somme. En pensant à bien coder la présence d'escarres ou l'état de dénutrition du patient, le tarif reçu pour un même séjour peut passer de 1 800 à 2 000 euros. Miracle de l'esprit d'initiative capitaliste, capable d'utiliser la moindre opportunité pour faire du fric, il y a même des entreprises de conseil comme Altao qui proposent leur service à l'hôpital pour optimiser le codage des actes, c'est-à-dire pour les aider à augmenter la facture présentée à la Sécu. Avec ce système, il n'y a plus de place pour le patient individuel et ses besoins particuliers. Pour une pathologie donnée, la Sécu fixe un nombre de jours d'hospitalisation standard qui seront payés. Si le patient part avant, l'hôpital aura gagné de l'argent Et s'il part après, il devra assumer financièrement. Si un malade a besoin d'un médicament plus cher que le patient moyen issu de l'algorithme, l'hôpital ne sera pas remboursé. Des associations comme AIDS pour les malades du sida ou Vaincre la muco pour les jeunes atteints de mucoviscidose ont dénoncé la dictature de ces impératifs comptables. La T2A incite à privilégier les actes techniques qui rapportent, alors que les patients ont aussi besoin d'écoute, d'aide pour apprendre à vivre avec leur maladie ou poursuivre leur scolarité. On arrive à des situations ubuesques, comme cette pédiatre du CHU de Grenoble qu'on accuse de passer trop de temps à échanger par téléphone, par mail, par SMS avec les parents des enfants diabétiques, car cette activité n'est pas tarifée par la T2A. Autre conséquence de ce système de tarification à l'acte, il n'y a plus de lien direct entre ce que dépense réellement un hôpital et ce qui lui est versé par la Sécu. Un hôpital peut être en déficit, et pour y faire face, il doit augmenter sa productivité. Il est incité à sélectionner les patients et à limiter les soins devenus les moins rentables selon ses critères comptables. Depuis les années 2010, la T2A est aussi utilisée comme moyen de pression pour faire sortir les patients le plus rapidement possible, en fixant des tarifs surévalués pour la chirurgie ambulatoire pour laquelle on ne dort pas à l'hôpital. Une liste de gestes à effectuer obligatoirement en ambulatoire a été établie. Et le médecin qui souhaite quand même garder un patient plus fragile s'expose à des reproches. Là où auparavant un patient restait 3 jours, il ne passe plus qu'une journée à l'hôpital, avec par exemple une petite opération de chirurgie, 2 examens, une perfusion posée, tout ça au pas de course. Il sort le soir et cela maximise le tarif touché par l'hôpital, tout en libérant le lit pour un autre patient le lendemain. Voici ce que raconte une patiente entrée pour une petite opération gynécologique à la PHP, donc à l'assistance publique hôpitaux de Paris. À l'hôpital, nous étions à la chaîne. Une blouse, des chaussons, une culotte, c'est là. Vous sortez après la cabine et vous allez vous asseoir. On ne comprend rien, car personne ne nous a rien expliqué. Parce que tout le monde court et personne n'a le temps. Nom, numéro de sécu, dossier, la chaise roulante et enfin la table d'opération. Beaucoup ont vécu cette impression de n'être qu'un numéro, vite traité et vite renvoyé chez soi. Un chez-soi parfois mal chauffé ou insalubre et où on peut se retrouver seul pour affronter l'inquiétude ou surveiller les risques de complications. Cette évolution vers plus d'ambulatoire s'appuie sur de nouvelles techniques qui rendent la chirurgie moins invasive et moins dangereuse. Et parfois, le patient peut être content de rentrer plus vite chez lui. Cela pourrait avoir des aspects positifs s'il y avait ensuite suffisamment de médecins de ville, de centres de santé, de visites à domicile pour assurer le suivi des soins. Mais ces avancées servent de prétexte pour faire des économies en fermant massivement des lits. En effet, pour chaque lit d'hospitalisation complète, il faut en moyenne 6 emplois de soignants à l'effectif afin d'avoir quelqu'un jour et nuit auprès du malade. Renvoyer des patients chez eux plus vite permet donc de supprimer des emplois et de diminuer l'argent dépensé en salaire. En 20 ans, entre 1998 et 2018, près de 70 000 lits d'hospitalisation complète ont été fermés dans le public et plus de 20 000 dans le privé. Même si certains ont été transférés en EHPAD et d'autres remplacés par des lits de journée, le solde reste largement négatif. En psychiatrie, avec la même logique, 60% des lits d'hospitalisation complète ont été supprimés entre 1976 et 2016, sans développement de structures suffisantes pour suivre correctement les patients en dehors. Les délais d'attente pour un premier rendez-vous dans un centre médico-psychologique s'allongent, pouvant parfois atteindre 6 mois, alors que de plus en plus de gens souffrent de problèmes psychiques. C'est particulièrement tragique pour les enfants ou les adolescents, avec des troubles autistiques ou des risques suicidaires tardivement repérés. Quant aux adultes mal soignés, nombre d'entre eux finissent sans abri ou en prison. Cette politique de l'État a été mise en œuvre par de hauts fonctionnaires qui font des allers-retours entre le privé et le public. Ils ont apporté dans la santé les méthodes de gestion capitaliste, comme en témoigne cette succession à la tête de la PHP. En 2002, il y eut Rosemarie van Lerberg, énarque et normalienne, dont la carrière l'a menée du management chez Danone à l'hôpital, puis à la direction du groupe privé d'EHPAD Korian et dans les conseils d'administration de Bouygues et CNP Assurance. Vous voyez, c'est vraiment une spécialiste de la santé, mais de la santé des profits. En 2010, est arrivée Myriel Faugère, dont le génie commercial avait consisté à importer à la SNCF le système des prix variables pour optimiser le remplissage des trains. Après un court passage à l'hôpital, elle est retournée dans le privé, au conseil d'administration du tristement célèbre géant des EHPAD, Orpea. De 2013 à 2022, ce fut au tour de Martin Hirsch, un haut fonctionnaire habitué des allées du pouvoir, ex-directeur d'Emmaüs France, qui a fricoté avec la gauche et avec la droite. Haut commissaire sous Sarkozy, nommé à la tête de la PHP sous Hollande, il avait immédiatement annoncé la couleur. Nous vivons dans un pays où la réduction des déficits publics est une priorité. Je ne vois pas pourquoi la PHP n'y contribuerait pas. Son projet assumé, c'était un hôpital avec moins de lits et plus de malades, entouré d'hôtels payants pour y loger les malades et leurs familles. Selon les opportunités de carrière, ces hauts fonctionnaires passent de l'appareil d'État à la Sécu aux entreprises privées. Ils y mènent la même politique au service de la bourgeoisie et de son système. Ce sont eux qui ont mis en œuvre le passage des hôpitaux dans les griffes de la finance. À partir de 2003, sous le gouvernement Raffarin, ils ont poussé les hôpitaux publics, souvent vieillissants, à se lancer dans une concurrence entre eux, comme toutes les entreprises privées. Du fait de la limitation des subventions de l'État, ils ont été incités à s'endetter pour se moderniser. En 2005, les directeurs d'hôpitaux ont été autorisés à emprunter directement sur les marchés financiers, créant encore une nouvelle dette. La dette des hôpitaux a triplé en 10 ans, passant de 9,8 milliards d'euros en 2003 à près de 30 milliards en 2014, dont près d'un quart d'emprunt dit toxique. Un épisode qui a marqué les esprits à l'époque, c'est celui des emprunts toxiques auprès de la banque Dexia, qui ont étranglé des communes, mais aussi de nombreux hôpitaux, comme ceux de Nancy ou de Saint-Étienne. Au départ, les hôpitaux empruntaient avec des taux d'intérêt faibles, mais le piège, c'est qu'ils étaient variables. Par exemple, le taux pouvait être indexé sur le taux de change de l'euro face au franc suisse. Et les commerciaux de Dexia assuraient bien sûr la main sur le cœur qu'il était hautement improbable que l'euro chute. Sauf qu'après la crise financière de 2008 et la crise de la dette grecque en 2010, la méfiance des spéculateurs a fait chuter l'euro, déclenchant la clause du contrat qui prévoyait la hausse des taux d'intérêt qui ont explosé. Pour réussir à payer cette dette pourrie, les mesures d'austérité se sont durcies. De nombreux hôpitaux ayant du mal à faire face, ils ont repoussé des travaux, annulé des investissements, d'où la vétusté, voire la dangerosité croissante de certains bâtiments. Mais les vautours de la finance, en mettant la main sur la dette, pouvaient désormais racketter directement les hôpitaux, forcés de détourner une partie de leur budget des soins aux malades. Nouveau miracle de la dette publique, le montant global des intérêts payés par les hôpitaux français aux banques est monté jusqu'à 928 millions d'euros pour l'année 2012 et dépasse encore aujourd'hui les 700 millions d'euros par an. L'argent ainsi emprunté sur les marchés financiers a servi à arroser les industriels par le biais de grands chantiers d'achat de nouveaux équipements. Par exemple, l'hôpital sud-francilien à Corbeil-Essonnes a été construit par le géant du BTP Eiffage par le biais d'un partenariat public-privé. Après avoir réalisé le chantier de 344 millions d'euros, Eiffage devait initialement toucher un loyer de 40 millions pendant 30 ans, soit un montant total de 4 fois sa mise initiale. Mais cet hôpital flambeau neuf a dû rester fermé plus d'un an du fait de milliers de malfaçons et de manquements aux règles de sécurité. Des hôpitaux ont été regroupés. De nombreuses petites villes ont perdu leur maternité ou certaines spécialités qui ont été centralisées dans les gros CHU. Par exemple, en région lyonnaise, un établissement tout neuf, baptisé Hôpital Femmes-Mères-Enfants, a ouvert en 2008. Il a regroupé toute l'activité liée à la maternité et à la pédiatrie de l'agglomération, en fermant les services de deux petits hôpitaux et la maternité d'un autre, et en supprimant des lits. Cette « usine à bébés », comme le surnommait la presse, a été l'occasion de faire la chasse aux doublons et d'intensifier le travail des soignants, comme cela se passe dans l'industrie. En Ile-de-France, pour lutter contre le déficit et l'endettement, un plan lancé en 2008 prévoyait de regrouper les 37 hôpitaux de l'APHP en 12 pôles ou groupements hospitaliers, en supprimant 4000 postes et près de 2000 lits. Selon la direction, il s'agissait, je cite, « de réaliser des gains d'efficience et des économies d'échelle sur le plan de l'organisation administrative et logistique, mais également de celle des soins ». Au sein de chaque groupement, les analyses médicales non urgentes ont été regroupées sur un seul site. Par exemple, la biologie du site de Charlefoy est réalisée à la Pitié-Salpêtrière avec des machines plus efficaces et une mécanisation croissante du travail. Les laboratoires de bactériologie des hôpitaux Thenon, Trousseau et Saint-Antoine ont été regroupés à Saint-Antoine. Des plateaux techniques de réanimation ou de chirurgie sont également regroupés. Une multitude de salles d'opération voisines permettent d'économiser du personnel, comme les infirmières de bloc qui passent plus vite d'une salle à l'autre. Cette rationalisation et la modernisation technique et matérielle, qui pourraient représenter un progrès en dégageant du temps pour les relations humaines, se sont accompagnées au contraire d'économies sur le personnel et de la précarisation des travailleurs, y compris de certains médecins. En voilà un des aspects révoltants. Les hôpitaux exploitent sans vergogne la précarité des médecins étrangers. 4 à 5 000 médecins exerçant dans les hôpitaux ont eu leur diplôme à l'extérieur de l'Europe, souvent au Maghreb, en Syrie, au Liban ou en Afrique subsaharienne. Leur formation n'a pas coûté un centime en France. C'est un aspect du pillage des pays les plus pauvres. Ils assurent opérations, consultations et gardes en cumulant les heures et en étant payés autour de 1 500 euros net au début, bien moins que leurs collègues à diplôme français. Sans eux, bien des services ne tourneraient pas, mais ils sont soumis à des épreuves de vérification de compétences qui sont en fait un véritable concours avec un faible taux de réussite. Ceux qui ont échoué ont souvent été licenciés puis menacés de perdre leur titre de séjour. Ils se sont mobilisés en janvier dernier avec comme slogan « Médecin pas cher, voilà la bonne affaire ». Le gouvernement a alors accordé des autorisations provisoires pour l'année 2024 pour leur permettre de repasser ce fameux concours. Mais rien n'est réglé pour eux. Et comme l'ensemble des travailleurs immigrés, ils font partie du monde du travail, ils doivent pouvoir avoir des papiers et la liberté de travailler. Toujours pour faire la chasse aux coups, la façon de travailler a été bouleversée. Des cabinets de conseil comme McKinsey ou le français Capgemini ont apporté à l'hôpital les méthodes du lean management chères au patronat, comme le raconte Benjamin Rossi, infectiologue dans un hôpital en Seine-Saint-Denis. Je le cite. On a alors vu débarquer dans les services ces types en costard qui n'allaient pas dans le décor. Au milieu des vitres scotchées au Chatterton et des fils électriques pendant dans les couloirs, leurs chemises immaculées, leurs sourires Colgate et leurs mocassins à glands faisaient tache. On les appelait les Men in Black. Selon eux, avec un brancardier au lieu de 10, une secrétaire au lieu de 30, une infirmière au lieu de 3, tout serait pareil. Ils appelaient ça rationaliser. Les services et les médecins eux-mêmes sont mis en concurrence. Il faut maximiser le taux d'occupation des lits, le taux d'utilisation d'un bloc opératoire. Aux urgences, on peut transférer un patient dans un autre service 10 minutes avant sa mort pour qu'il ne soit pas comptabilisé comme décès aux urgences. Dans des laboratoires de plus en plus mécanisés ou au brancardage, les mêmes chronométreurs que dans l'industrie font la chasse au temps mort. Alors qu'auparavant, chaque service avait ses brancardiers dédiés. Aujourd'hui, tout a été centralisé. Il faut faire une demande par informatique pour un transport de malades. Et les brancardiers, comme chez Amazon, sont munis d'une application qui optimise les flux de patients. Il ne s'agirait surtout pas de prendre le temps pour discuter avec des patients parfois inquiets. En revanche, s'il s'agit de les licencier quand ils sont précaires ou de les évaluer s'ils sont titulaires, les cadres leur reprocheront de ne pas discuter assez avec les patients qu'ils brancardent. Pour les aides-soignants, il faut toujours passer plus vite au patient suivant, comme s'il s'agissait d'une voiture sur une chaîne de montage. Faute de temps, des toilettes de patients sont faites de façon incomplète. Des malades en perte d'autonomie sont laissés au lit des jours entiers. Pour les infirmières aussi, les gestes sont standardisés et le temps est compté. Une jeune infirmière n'a plus le temps à passer avec une ancienne plus expérimentée pour apprendre le savoir-faire. Il n'y a plus de temps pour faire des réunions d'équipe. La pratique des poules ou des remplacements sur repos s'est développée. Ce sont des réservoirs d'infirmières qui peuvent être envoyées n'importe où sans forcément maîtriser les spécificités de chaque spécialité ni l'organisation du service. L'augmentation du recours à l'intérim va dans le même sens. Des infirmières qui ne sont là que pour une journée, ne savent pas où est rangé le matériel, ne connaissent ni les patients ni les autres membres de l'équipe. Les soignants sont transformés en pions interchangeables. Dans les hôpitaux psychiatriques, où le relationnel entre soignants et patients est particulièrement important, le sous-effectif et le manque de temps se traduisent pour les patients par plus de contentions et plus de passages en chambre d'isolement. Au quotidien, c'est aussi moins d'activités thérapeutiques pour des patients qui parfois y passent leur vie, moins de sorties où ils peuvent faire comme tout le monde en allant au centre commercial ou en déjeunant à la cafétéria. En 1920, Trotsky décrivait ainsi la mise au pas des travailleurs dans l'industrie capitaliste. La productivité du travail salarié n'est pas quelque chose qui est donné, achevé, présenté par l'histoire sur un plateau. Non, c'est le résultat d'une politique longue et tenace de répression, d'éducation, d'organisation et de stimulation de la classe ouvrière par la bourgeoisie. Pas à pas, la bourgeoisie a appris à pressurer les travailleurs pour extorquer de leur travail une quantité toujours croissante de produits. Un siècle après, ce sont exactement les mêmes méthodes que les dirigeants ont transposées dans la santé. Tout l'argent économisé en salaire, en personnel, au détriment d'une santé humaine et bienveillante, permet, outre le paiement des intérêts aux banquiers, à une kyrielle d'entreprises capitalistes de s'enrichir dans et autour de l'hôpital. Le développement de l'ambulatoire est une aubaine pour les capitalistes de l'hôtellerie, comme le groupe Accor, qui ouvre des hôtels hospitaliers pour des patients qui viennent de loin et souhaitent dormir la veille ou le soir à côté de l'hôpital. Mais l'argent du patient ou de son assurance maladie alimente les profits d'une multitude d'entreprises. Prenons un patient hospitalisé aux hospices civils de Lyon. S'il souhaite une chambre individuelle, il devra faire sa demande auprès de l'entreprise Hapital. S'il veut la télévision ou Internet, c'est la société Cineolia. S'il souhaite une revue pour patienter, il ira au relais H du groupe Vivendi, possédé par Bolloré. Le ménage de sa chambre a été fait par les travailleurs de l'entreprise GSF. S'il doit faire un IRM ou un scanner, c'est avec l'appareil du groupe Philips, qui a signé un partenariat exclusif de 60 millions d'euros sur 12 ans pour l'installation et l'entretien. S'il a besoin d'une analyse médicale, interviendront les automates installés par le leader mondial de la biotechnologie Roche, qui a lui aussi un contrat d'exclusivité. Un test PCR s'est fourni par l'entreprise Biomérieux, qui appartient à Mérieux, 20e fortune française. Aurait-il besoin d'oxygène ? Les bouteilles viennent d'Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. S'il prend des médicaments, il versera évidemment son tribut à Sanofi ou Merck. Il peut aussi avoir la chance d'être opéré avec un robot high-tech de chirurgie assistée vendu par Medtronic, géant mondial des technologies médicales. Et pour se débarrasser de lui, voilà la dernière venue, Noé Santé, une start-up spécialisée pour accélérer la sortie des malades. Ainsi, l'hôpital, avec ses gros budgets de fonctionnement, ses 1001 domaines d'activité et même le caractère vital des besoins auxquels il répond, a été démantelé, découpé en confettis et des pans entiers de la santé soumis aux intérêts, aux appétits du capital. Grâce à une politique volontariste de l'État, son budget est tapé par tous les bouts, que ce soit par les entreprises privées qui vendent du matériel ou des services, ou par les banquiers qui prélèvent leurs dîmes. Cela s'est fait en pressurant l'ensemble des travailleurs de l'hôpital. Certains travailleurs de la santé se découragent et préfèrent quitter leur emploi et rendre leur blouse. Le nombre de démissions explose. Mais d'autres, régulièrement, contestent collectivement cette dégradation. Il y a des mouvements de colère locaux, des travailleurs qui se regroupent pour interpeller leur direction, qui refusent d'appliquer des consignes absurdes, qui refusent de se soumettre à un système qui broie travailleurs et patients. Parfois, cela débouche sur des mouvements plus larges, qui révèlent que les travailleurs de la santé n'acceptent pas cette évolution. Le premier mouvement qui a marqué, c'est la grève des infirmières en 1988. Qui a également concerné d'autres catégories de personnel. Avec entre autres la revendication de 2000 francs d'augmentation de salaire pour tous, il s'opposait au blocage des salaires décidé par la gauche en 1982. Dans les 20 dernières années, de multiples mobilisations locales contre des fermetures de maternité ou de services ont réuni personnel et population locale, de Saint-Affrique dans l'Aveyron au Lilas en Seine-Saint-Denis, en passant par Carhaix, Guy, Cognac, De Gasville, Épernay, Guingamp, Sarlat, et j'en passe. Ils obtiennent parfois un sursis, mais sans parvenir à stopper le rouleau compresseur des fermetures. En 2015, à la PHP, un mouvement de contestation a duré plusieurs semaines contre la suppression des jours dits de RTT, réduction du temps de travail, des journées à récupérer en repos pour compenser le fait que les soignants travaillaient plus que les 35 heures légales. Pour économiser 20 à 25 millions d'euros, Martin Hirsch, en supprimant les RTT, voulait augmenter le nombre de soignants présents sans embaucher, et il comptait sur le fait que les soignants continuent à dépasser la durée légale du temps de travail, mais sans être payés en conséquence. Une camarade racontait alors: il n'y a déjà plus aucune règle qui régisse le temps de travail. On fait des semaines de 50 heures. On passe du jour à la nuit dans la même semaine. Tous les jours ou presque, pour arriver à faire le boulot et à passer les consignes, on reste après l'heure, un quart d'heure, une heure, le temps de finir. On est rappelé sur nos jours de repos et on est prévenu quelquefois du jour au lendemain qu'il faut changer d'horaire. En 2019, une autre vague de contestation a cette fois-ci secoué les services d'urgence, avec la particularité de toucher l'ensemble des métiers et tout le pays. Pendant plusieurs mois, à l'appel du collectif Interurgence, rejoint par des syndicats de travailleurs et des collectifs de médecins, des grèves et des manifestations ont réclamé des embauches et des augmentations de salaire. Toutes ces réactions sont légitimes et salutaires. Elle montre que les travailleurs de la santé n'acceptent pas les diktats de la rentabilité et de la finance, qu'ils ne supportent pas le mépris et l'impression que leur travail perd son sens. L'évolution du capitalisme a rapproché leurs conditions de travail de celles de tous les prolétaires. Et comme les autres, ils n'ont pas d'autre choix que de s'organiser, lutter ensemble pour défendre leur peau face à l'offensive de l'État et du patronat. C'est dans ces luttes communes qu'ils peuvent se faire respecter, apprendre à surmonter les divisions entre catégories, prendre conscience de leurs intérêts communs, comprendre qui sont leurs ennemis. Mais ils doivent réaliser que l'État ne pourra pas être de leur côté. Il n'enrayera pas la politique de pillage à grande échelle organisée au profit des capitalistes. L'État est un instrument façonné et affûté par la bourgeoisie. Ses hauts fonctionnaires, ses gestionnaires, sortis des grandes écoles, passant du public au privé et réciproquement, ne sont pas sélectionnés pour défendre l'intérêt de la population, mais pour défendre sous tous les angles ceux des capitalistes. À l'hôpital, comme ailleurs, il y a besoin de militants communistes révolutionnaires pour faire réaliser que la financiarisation de la santé est un moyen de drainer des parts supplémentaires de la richesse créée par les travailleurs vers les caisses des capitalistes et que la dégradation vécue dans la santé est une facette de la lutte que mène la classe capitaliste contre l'ensemble de la classe ouvrière. Pour arrêter le rouleau compresseur, c'est le pouvoir de la bourgeoisie qu'il faut renverser. En 2020, la crise du Covid fut un révélateur de l'état de ruine où était le système hospitalier. Déjà à peine capable de faire face aux périodes normales et aux épidémies habituelles comme la bronchiolite, il a été complètement débordé. Et les soignants se sont retrouvés seuls dans cette guerre sanitaire. Dizaines de lits fermés, pénurie de masques, manque de respirateurs, manque de personnel. Macron et son gouvernement n'ont ni changé de politique, ni imposé la moindre contrainte aux fabricants de vaccins qui ont engrangé des super profits dans cette période. En revanche, les contraintes se sont abattues sur l'ensemble de la population, avec leçons de morale et dressage sous forme de confinement, couvre-feu et autres passes sanitaires. Les paroles mielleuses de Macron sur les travailleurs essentiels était une piètre tentative pour masquer la réalité. Les fermetures de lits ont continué, encore plus nombreuses en 2020 en plein Covid qu'en 2019. Et ça ne fait que s'accélérer depuis. Les restructurations avec suppression de personnel et de lits se poursuivent. Par exemple, le futur Grand Hôpital Nord, qui devrait ouvrir ses portes en 2028 à Saint-Ouen, qui fusionne deux hôpitaux, Bichat et Beaujon, s'accompagne de la suppression de près de 25% des lits. Quant au Ségur de la santé, une prétendue réponse du gouvernement aux revendications des travailleurs, il n'a accordé qu'une augmentation de salaire bien insuffisante aux hospitaliers et rien à ceux de la sous-traitance. Les pénuries de personnel créées par la politique des gouvernements atteignent des sommets. Les places en formation de médecins ou d'infirmières ne suffisent pas pour faire face aux besoins. Les démissions sont de plus en plus nombreuses, ainsi que les départs en invalidité, en particulier des aides-soignantes dont le travail est très dur physiquement. Cela alimente le cercle vicieux de la dégradation pour ceux qui restent. De nombreux lits, voire des unités entières, restent fermés pendant des mois par manque de personnel. Voilà l'implacable bilan de 20 ans de financiarisation, d'irruption violente des exigences du profit privé au cœur de l'hôpital. Dans le manifeste du Parti communiste, Marx expliquait comment la bourgeoisie, dans sa transformation de la société passée, avait détruit les sentiments qui enrobaient les relations personnelles dans la société féodale pour les remplacer par une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutal. L'hôpital avait longtemps échappé à l'emprise directe de la finance. laissant une certaine place au sentiment des soignants de faire une œuvre utile et à la préoccupation du bien des malades. Mais désormais, là aussi, la concurrence et la loi du marché capitaliste ont imposé l'exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. Pour les capitalistes, la santé est un secteur comme les autres, un support pour dégager du profit. Ce sont des irresponsables. Et la seule solution, c'est que les travailleurs les empêchent de nuire. Bah, du coup, on va faire la pause maintenant.
Voilà. Donc...